9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Patrick Cohen sur Europe 1.
Bonjour à tous, elle va débarquer dans nos vies en 2020, en tout cas dans les vies des 2,5 milliards d'utilisateurs de Facebook. C'est la Libra, la monnaie virtuelle qui pourrait devenir un moyen de paiement universel. Mais va-t-on laisser une multinationale battre monnaie, comme le fait un État, et risquer de prendre la mainmise sur des milliards d'existences individuelles? L'entrepreneur Gilles Babinet, vice-président du Conseil national du numérique, fait partie de ceux qui disent non à l'État Facebook et milite dans la foulée des agences américaines antitrust pour un démantèlement des GAFA. Il sera avec nous dans un instant. Hong Kong continue de gronder, toujours des manifestations pour rejeter un projet qui placerait le territoire à la merci de la justice chinoise. Qu'est-ce qui se joue dans cette rébellion historique à Hong Kong et en Chine? Invité ce matin, le sinologue Jean-Philippe Béja. L'Arabie Saoudite pensait en avoir fini avec le meurtre de son opposant, le journaliste Jamal Khashoggi. Et voilà qu'après 6 mois d'enquête, une experte de l'ONU accuse le royaume saoudien et le prince Ben Salman d'un crime d'État atroce. Cette experte, Agnès Calamar, a eu accès à l'enregistrement audio de l'assassinat. Elle sera en ligne avec nous. Enfin, au lendemain de la fête de la musique, un grand musicien de jazz, plus de 50 ans de carrière derrière sa contrebasse ou à la tête des grands ensembles qu'il a fondés, Patrice Caratini va nous présenter son Tropical Jazz Trio. C'est son nouveau disque. Voilà le programme. C'est arrivé. Va commencer. Soyez heureux.
The sun is shining, come on, get happy. The Lord is waiting to take your hand. Shout hallelujah, come on, get happy. We're going to the promised land.
Une citation juste pour le plaisir de Judy Garland, disparue il y a exactement 50 ans aujourd'hui.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Patrick Cohen sur Europe 1.
Voici donc un projet considérable qui pourrait faire basculer Facebook, l'entreprise déjà la plus puissante du monde avec ses 2,5 milliards d'utilisateurs mensuels, la faire basculer dans une autre dimension, celle d'une puissance monétaire. Bonjour Gilles Babinet.
Bonjour.
Entrepreneur, conseiller pour les questions numériques à l'Institut Montaigne et vice-président du Conseil national du numérique. Au départ, c'est une idée simple, ainsi résumée par le patron de Facebook, Mark Zuckerberg. À l'avenir, il sera aussi facile et rapide d'envoyer de l'argent qu'un message ou une photo. Et on se dit, pourquoi pas, ça peut rendre de très grands services.
Ah oui, ça peut rendre des services extraordinaires. Et d'ailleurs, ils ne sont pas privés de le dire. Dans les pays en développement, les enjeux de bancarisation sont essentiel pour accélérer le développement.
Parce qu'il y a 1,7 milliard d'individus qui n'ont pas de compte bancaire, hein, c'est ce que martèle Facebook, dont 1 milliard qui ont un smartphone.
Exactement.
Et donc qui pourraient avec ça envoyer de l'argent.
Voilà, donc a priori c'est une œuvre de bienfaisance, c'est ce qu'on se dit en premier lieu, d'autant que c'est une fondation que Facebook n'en tirerait pas de profit direct. Et donc, on a toutes les raisons de se dire, il faut y aller, c'est super, merci Mark Zuckerberg.
Avant d'avoir les mais, on va expliquer que le principe, c'est qu'on pourra acheter des Libra, hein, c'est le nom de la monnaie choisie par Facebook, Libra, monnaie virtuelle indexée sur un panier de devises, ce qui va assurer la stabilité de son cours, et on pourra faire des virements sans argent liquide, sans carte de crédit et sans commission bancaire. Ça fait beaucoup d'avantages.
Exactement, ça fait des avantages qu'on appelle de la disruption, c'est-à-dire faire en sorte de rendre ringard les acteurs qui préexistaient.
La question c'est, est-ce que ce sera un simple outil de paiement, comme on le présente aujourd'hui, ou une véritable monnaie qui est l'apanage des États? Qu'est-ce qui fait qu'on bascule d'un concept à un autre?
Mais c'est toute la puissance des plateformes digitales, c'est la capacité d'arriver par un angle, et puis petit à petit, grâce à la donnée qu'ils récoltent au travers de ces services, d'évoluer vers d'autres services. Le premier risque que l'on voit, c'est lorsque vous maîtrisez les systèmes de paiement, c'est finalement assez facile d'évoluer vers de l'émission monétaire, notamment avec de l'émission de crédit. Mmh. Et en particulier, quand vous avez le comportement des gens, vous avez une capacité à gérer le risque qui fait que vous êtes un formidable émetteur de crédit potentiel.
On sait que le modèle économique de Facebook, vous venez de le rappeler, est basé sur la captation consentie des données personnelles, de leur traitement et de leur vente. Or, les données de paiement, c'est ce que vous venez de rappeler, Gilles Babinet, nos comptes bancaires, ce qu'on dépense au quotidien, c'est encore plus précieux, non, pour la connaissance et pour des entreprises.
Lorsque vous avez les conversations plus les actions, les paiements, vous savez vraiment énormément de choses des gens, et donc vous avez une valeur de données qui est juste extraordinaire. Mais finalement, je pense que au-delà de ça, l'un des problèmes qu'on commence à rencontrer, c'est que finalement, c'est ce qui fait ce qu'on appelle le social crédit en Chine. C'est-à-dire qu'il y a un réseau social qui s'appelle WeChat, qui au départ était un réseau de chat, donc de conversation instantanée, et puis qui a amené du paiement et qui a été l'élément structurel pour mettre en œuvre ce qu'on appelle le social crédit, c'est-à-dire des récompenses et des sanctions en fonction de vos actions du quotidien. Donc il y a un vrai enjeu sur la gouvernance des libertés publiques, et je pense que le fait d'arriver à émettre de la monnaie et potentiellement de déstabiliser des monnaies, le fait de pouvoir potentiellement pour le compte de tiers faire la police, ça commence à faire beaucoup d'armes entre guillemets dans les mains de Facebook qui par le passé n'a pas démontré être vraiment un acteur responsable en matière de gestion des données.
Donc ce que vous nous dites, Gilles Babinet, c'est que malgré les garanties apportées par Facebook, la promesse d'abriter tout ça au sein d'une fondation suisse, etc., la finalité de cette entreprise, c'est encore d'accumuler des données personnelles.
Si vous voulez, moi je suis de ceux qui voient un grand dessein politique dans l'évolution de ces technologies, et en particulier de Facebook. Il faut le rappeler, au sein du conseil d'administration de Facebook, il y a quelqu'un qui s'appelle Peter Thiel, qui est vraiment un personnage shakespearien, au sens où il a eu par le passé, il a été un militant homosexuel affirmé et efficace, et il faut le saluer pour ça. Et puis en même temps, il a toujours été extrêmement libertarien. Il a explicitement dit que son objectif, c'était la destruction des États.
Destruction des États.
Et lorsque, il y a une vingtaine d'années, il a lancé le projet PayPal, les rares déclarations qu'il a fait à cet égard, c'était pour dire que son projet était de nature politique. Et donc, aujourd'hui, je ne peux pas ne pas voir sa main à l'œuvre lorsque je vois Facebook rentrer sur cette dimension monétaire. Je pense que tout le savoir et je dirais presque la rancœur accumulée de ne pas avoir vu PayPal permettre de résoudre cette vision politique à l'œuvre dans ce projet.
Gilles Babinet, on marque une courte pause et vous nous direz pourquoi il faut ou on peut sérieusement envisager le démantèlement de Facebook.
Europe 1, 9h-10h, c'est arrivé cette semaine. Europe 1.
Comme chaque samedi jusqu'à 10h, on vous retrouve, Patrick Cohen, avec C'est arrivé cette semaine.
Avec le spécialiste du numérique Gilles Babinet et cette idée du démantèlement de Facebook et des autres GAFA. Alors certains de ceux qui nous écoutent ont dû se dire oui, n'importe quoi, cause toujours, mais non. Aux États-Unis, le ministère de la Justice et la FTC, c'est-à-dire la commission antitrust, s'apprêtent à enquêter sur de possibles abus de position dominante des GAFA. La candidate démocrate Elizabeth Warren milite pour le démantèlement de ces GAFA. C'est pas une utopie. Vous êtes de ce mouvement, Gilles Babinet ?
Oui, je le suis beaucoup par posture parce que je pense que le débat en France est insuffisant. Et donc, c'est toujours le problème, c'est que vous essayez d'amener des arguments raisonnables et puis finalement, vous vous rendez compte que votre voix ne porte pas. Et il y a un truc qui marche bien, c'est de faire un coup d'éclat. Donc, ce que j'ai fait il y a quelques jours. Et évidemment, j'ai eu ce retour pour le moins ennuyé de pas mal de mes amis qui m'ont laissé comprendre que j'étais un peu dingue. Mais je l'assume assez bien parce que voilà, on a quelque chose qui devient extrêmement problématique.
C'est un monstre.
C'est un monstre et je ne voyais pas finalement à la fois les acteurs politiques, les forces de régulation vraiment se lever et dire « Ok, on a un énorme problème et il faut qu'on agisse ». C'est-à-dire qu'on a un problème qui est de la nature, de l'essence même des souverainetés des pouvoirs européens et nationaux. On laisse une sorte d'éviction des éléments fondateurs du pouvoir régalien, la monnaie, et on ne réagit pas.
Ici et là, c'est assez frappant, ce sont des libéraux qui mènent l'offensive. Gaspard Koenig, vous l'avez lu il y a quelques jours dans Les Échos. Ce que Facebook prépare sous couvert d'innovation financière et de disruption technologique, c'est une mainmise d'une ampleur encore inégalée sur des milliards d'existences individuelles. Il faut l'arrêter de toute urgence. Il a raison.
C'est toute son intelligence, c'est-à-dire que c'est un vrai libéral. C'est un libéral qui sait avoir une posture libérale, c'est pas donner la main au pouvoir capitaliste, c'est le réguler. Et c'est justement réguler les abus de position dominante, manifeste dans ce cas-là. Et donc, il est cohérent avec lui-même et il appelle au finalement à la destruction de ce projet.
Vous nous avez parlé tout à l'heure du projet politique qu'il y a derrière aussi cet homme influent, Peter Thiel, créateur de PayPal et membre du conseil d'administration, hein, du comité de direction de Facebook.
Et du conseil présidentiel. C'est un des rares personnages de la vallée qui a pris ouvertement le parti de Donald Trump et qui continue à le conseiller aujourd'hui.
Qu'est-ce qui peut se passer aux États-Unis dans les mois à venir?
Il y a une évolution de la vision technologique par les acteurs politiques qui est juste invraisemblable. Et évidemment, Elizabeth Warren est extrêmement courageuse. C'est-à-dire que lorsque l'on voit que le financement des campagnes politiques est largement le fait d'acteurs privés et plus encore du monde de la technologie californien, sa prise de position en faveur du démantèlement des grands acteurs, et je trouve extrêmement courageuse et lui donne énormément de crédit dans l'authenticité de sa posture.
On a noté cet aveu de Mark Zuckerberg, le président et fondateur de Facebook, lors de son récent passage à Paris. Si Internet s'inventait aujourd'hui, on ne laisserait pas des entreprises privées en fabriquer les règles. Et c'est ce qui s'est passé pourtant. Et aujourd'hui, il s'agit d'essayer de changer ces règles.
Le dévoiement est absolu. Je rappelle que lorsque Mark Zuckerberg auprès de ses camarades, lorsqu'il était encore à l'université, évoquait le fait de monter Facebook, il voulait en faire une association. Parce qu'il trouvait que les entreprises pour le profit n'étaient pas des choses intéressantes ni raisonnables. Et puis, il a fait une entreprise parce que c'était plus facile à financer. Et petit à petit, il est rentré dans une course au profit que même ses anciens associés fondateurs dénoncent aujourd'hui. Et leur disent, l'un d'entre eux appelle au démantèlement également de Facebook.
Zuckerberg qui a donc annoncé le lancement de Libra, cette monnaie pour 2020. Vous faites partie de ceux, Gilles Babinet, qui disent qu'il faut que les États s'organisent et qu'il y ait une concertation, ce que n'a pas fait Facebook ou de façon très superficielle, une concertation qui s'engage, un dialogue avec Facebook pour au minimum amender ce projet.
Oui, parce que si vous voulez, on doit laisser les entreprises de ce type-là innover. On ne peut pas dire vous êtes trop gros et on n'aime pas les grandes entreprises, comme certains le disent d'ailleurs, et donc il faut la détruire. Il faut, je crois, essayer de comprendre dans quelle mesure ils pourraient exister, notamment quelles garanties en matière de contrôle et de régulation ils peuvent donner aux autorités européennes pour pouvoir développer ce projet. Évidemment, l'impact sur les pays en développement doit être pris en compte et pourrait être considérable. Maintenant, leur donner un blanc-seing, c'est juste inacceptable et c'est ce qu'ils cherchent. Et à cet égard, je pense qu'il faut être très ferme dans les puissances qu'on leur oppose.
Ce sera à l'ordre du jour du G7 en juillet, a annoncé il y a quelques jours le ministre Bruno Le Maire. Merci beaucoup Gilles Babinet. Je rappelle que vous êtes entrepreneur et vice-président du Conseil national du numérique. Merci.
Merci.
Europe 1. Dans un instant, on vous explique Hong Kong qui ne veut toujours pas être avalé par la Chine. Le sinologue Jean-Philippe Béja sera avec nous.
Europe 1. Jusqu'à 10h, vous écoutez C'est arrivé cette semaine avec Patrick Cohen sur Europe 1.
Les Chinois n'en savent toujours rien, mais la vaste rébellion qui s'est développée à leurs portes ne faiblit pas et continue de plus belle. 1 million de Hongkongais dans les rues le 9 juin, 2 millions le 16, des actions de désobéissance civile hier avec le blocage du quartier général de la police. Bonjour Jean-Philippe Béja.
Bonjour.
Sinologue, directeur de recherche au CNRS. D'abord, est-ce que c'est toujours vrai? Les Chinois ne savent rien de ce qui se passe dans une partie de leur pays parce que Hong Kong, c'est la Chine?
Oui, c'est la Chine, mais c'est un autre système.
Oui, on va en parler après.
Mais,
ils savent ou ils ne savent pas?
Bon, bah, écoutez, il y en a qui savent, en tout cas, c'est le moins qu'on puisse dire. En tout cas, dans la province de Guangdong, qui est juste à côté de Hong Kong, la plupart des gens savent. D'autre part, il faut bien voir que les Chinois se promènent à l'extérieur aussi. Ils vont aussi à Hong Kong, beaucoup. Et donc, les gens savent. De plus, même sur les réseaux sociaux, on a quand même pas mal parlé de ces événements, même si, effectivement, chaque fois, le pouvoir essaye d'effacer des informations. Mais les informations filtrent quand même.
Elles filtrent, mais on vient de parler de Facebook il y a un instant. C'est fascinant de voir qu'il y a un territoire au monde où l'État essaie de rester plus fort qu'Internet et les réseaux sociaux ou en tout cas, il essaie de les contrôler.
Il est évident que le Parti communiste chinois contrôle les réseaux sociaux. Les applications de dialogue, WeChat par exemple, sont très nettement observées par la sécurité. Il y a des gens qui sont payés pour effacer les posts qui sont un peu gênants. Il y a des algorithmes qui servent aussi à ça. Donc, bien évidemment, c'est un net qui est complètement contrôlé. Mais en même temps, il y a toujours des possibilités pour les internautes de ruser avec les algorithmes. Vous savez, le 4 juin, c'est le 35 mai, par exemple. Oui. Alors, l'algorithme, il ne connaît pas le 35 mai.
Évidemment. Il y a même une chanson qui a disparu des plateformes de streaming, a-t-on lu, et dont les autorités chinoises cherchent à effacer toute mention sur Internet. Cette chanson, c'est celle-ci. Entendez-vous chanter le peuple, extrait de la comédie musicale Les Misérables, chanson reprise par la foule à Hong Kong lors de la marche du 16 juin, parce qu'elle sonne évidemment comme un appel à la révolte, censurée par Pékin.
C'était largement l'hymne de la révolution des parapluies en 2014, et effectivement, si vous voulez, c'est un peu tout Hong Kong, cette chanson, parce que c'est à la fois, on utilise une chanson qui est étrangère, qui vient d'une comédie musicale à spectacle dans le monde entier, on la reprend et on la transforme pour l'utiliser dans la lutte contre le Parti communiste chinois et contre le gouvernement de Hong Kong. C'est vraiment le génie de cette espèce de place multiculturelle qu'est Hong Kong et qui est tout à fait extraordinaire.
Encore un mot sur l'attitude des autorités chinoises, ces censures permanentes ou ces tentatives, c'est une sage précaution parce que la société chinoise est inflammable ou c'est de la paranoïa un peu stupide ?
En tout cas, les dirigeants chinois pensent sans aucun doute que la société chinoise est inflammable et que la contagion est tout à fait possible. Alors nous, on voit mal d'où ça pourrait venir, parce qu'il semble quand même qu'il y a un contrôle extrêmement important, mais si eux-mêmes s'inquiètent à ce point-là, c'est sans doute qu'effectivement, et il y a effectivement dans la société chinoise beaucoup de mécontentement, et les regards sont fixés sur Hong Kong, parce que si la population de Hong Kong réussit à faire reculer le gouvernement et le Parti communiste chinois, c'est évidemment une leçon qui pourrait être tirée.
Alors, il faut revenir en quelques mots sur le statut de Hong Kong, donc depuis le départ des Britanniques en 97, avec le principe « un pays, deux systèmes » qui leur garantit, en théorie, jusqu'en 2047, une semi-autonomie et des libertés qui sont inexistantes par ailleurs en Chine. Les Chinois sont prêts, à votre avis, à attendre jusqu'en 2047, Jean-Philippe Béja?
On les voit de plus en plus impatients, hein, sans aucun doute, notamment depuis 2014 et la révolution des parapluies. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient qu'avec le temps, on réussirait à créer une nouvelle génération qui serait favorable à la République populaire et qui soutiendrait en partie le pouvoir chinois. Car pour les dirigeants chinois, Hong Kong est une cité économique. Les gens pensent qu'au fric, littéralement, c'est ça qu'ils veulent dire. Ouais. Or, ce qui s'est passé avec les parapluies et ce qui se confirme aujourd'hui avec ces énormes manifestations, c'est qu'au contraire, l'identité hongkongaise est de plus en plus prégnante, que les gens se sentent de plus en plus différents de ce qui se passe sur le continent et veulent absolument maintenir ces libertés fondamentales. Qu'est-ce que c'est un pays de système ? Évidemment, le Parti communiste chinois cherche à empêcher l'expression de toute opposition. Alors, pas comme en Chine, mais en tout cas, au minimum, les circonscrire pour qu'on ne critique plus les dirigeants chinois à Hong Kong. Or, les Hongkongais, justement, veulent défendre absolument leur liberté d'expression, leur liberté de manifestation et leur système judiciaire indépendant qui est la garantie de tout ce système. Or, l'amendement sur l'extradition s'attaque justement directement à cette liberté du pouvoir judiciaire. Voilà pourquoi ça a tellement mobilisé. Et puis ça vient, il faut bien le dire, à la suite d'un grand nombre d'immixtions à la fois de Pékin, pour essayer de restreindre les libertés. Enlèvement de citoyens hongkongais sur le territoire de Hong Kong qui ont été ramenés en Chine de manière tout à fait illégale, invalidation de députés élus au suffrage universel, interdiction de partis politiques, ce sont des choses qui n'avaient pas suscité énormément de réactions, mais aujourd'hui, la goutte d'eau a fait déborder le vase et voilà ce qui se passe.
Et c'est aussi ce qui se passe à Hong Kong, une forme de démenti aux politiques chinois qui disent souvent que s'il n'y a pas de liberté dans leur pays, c'est pas les valeurs et les idées politiques de l'Occident. Ils n'ont pas les mêmes valeurs. Bah si, à Hong Kong, ils ont les mêmes valeurs qu'en Occident.
Vous savez, le Parti communiste chinois a accusé les forces étrangères d'avoir organisé tout ça. Ouais. Je suis sur les réseaux sociaux chinois, ouais. Et justement, il y avait un de mes correspondants qui disait « Tiens, c'est marrant, j'aurais jamais cru qu'il y avait 1 million d'étrangers à Hong Kong. Ouais. » Non, les valeurs, la demande de liberté, la demande de liberté d'expression, on l'a vu quand même il y a 30 ans s'exprimer très fortement en Chine, et c'est pas parce qu'on l'empêche de s'exprimer qu'elle a disparu. Donc voilà pourquoi l'affaire de Hong Kong est extrêmement importante. D'une part parce qu'elle montre que les discours sur la culture chinoise qui serait incompatible avec la liberté et la démocratie, bah, ça tient pas. Quand vous avez un tiers, ça voudrait dire 20 millions de personnes en France, hein, 2 millions de manifestants à Hong Kong. Il faut quand même se rendre compte de l'immensité de ce mouvement. Eh ben, quand vous avez ça, c'est quand même un grand démenti à tous ces discours du Parti communiste chinois. Et c'est pour ça que le parti est extrêmement inquiet.
Et c'est pour ça que c'est aussi important. Merci beaucoup Jean-Philippe Béja, directeur de recherche au CNRS, sinologue. Merci d'avoir été avec nous ce matin.
Europe 1.
Dans un instant, on va appeler celle qui relance l'affaire Khashoggi, opposant saoudien assassiné en octobre dans le consulat d'Istanbul. Un crime d'État pour la rapporteuse de l'ONU, Agnès Callamard, qui réclame enquête et poursuite contre l'homme fort du royaume, le prince Ben Salman.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine. Europe 1,
c'est arrivé cette semaine. Continue jusqu'à 10h avec vous, Patrick Cohen.
Bonjour Agnès Callamard.
Bonjour.
C'est donc un rapport accablant que vous venez de publier, accablant pour l'Arabie Saoudite et accusateur pour le prince Ben Salman. D'abord sur ce qui s'est passé le 2 octobre dernier au consulat saoudien d'Istanbul, vous avez la certitude qu'il s'agit d'un assassinat, que la mort de Khashoggi a été préméditée ?
Tout à fait, oui. J'ai pu obtenir suffisamment d'éléments de preuve qui me permettent de conclure que le meurtre était planifié au moins 24 heures à l'avance et qu'il s'agit bien d'un crime dont la responsabilité doit être imputée à l'État. J'ai pris en compte les hypothèses qui ont été émises par les autorités saoudiennes comme quoi il s'agissait d'un acte privé et d'un accident. J'ai revu toutes ces hypothèses avec beaucoup d'attention, mais au vu du droit international et sur la base des preuves que j'ai pu récolter, je ne peux conclure que deux choses. Premièrement, il s'agit d'un crime d'État. Et deuxièmement, le meurtre était prémédité au moins 24 heures avant qu'il ait eu lieu.
Parmi ces preuves, vous avez eu accès à un enregistrement audio des services secrets turcs qui fait entendre au sein du consulat des scènes particulièrement atroces.
J'ai eu accès à des enregistrements. L'un d'entre eux en particulier est une conversation entre le médecin légiste et quelqu'un d'autre au sein du consulat, une heure avant l'arrivée de Monsieur Khashoggi. Dans cette conversation, le médecin légiste explique comment il démembre un corps humain. À la fin de cette conversation, on entend quelqu'un qui dit « L'animal pour le sacrifice est arrivé ». La seule conclusion, selon moi, que l'on peut faire de cette conversation, c'est qu'il s'agit l'animal pour le sacrifice et Monsieur Khashoggi, parce que tout de suite après, on entend une conversation avec donc Monsieur Khashoggi qui dure environ 10 minutes, au cours de laquelle on se rend compte progressivement de la peur qui caractérise donc la voix de Monsieur Khashoggi jusqu'à la fin de l'enregistrement.
Oui, il comprend petit à petit qu'il est prisonnier. On lui dit « Dépêchez-vous de faire ce qu'on vous dit de faire et puis on va t'anesthésier voilà. ». Khashoggi, à ce moment-là, est vraisemblablement subi une piqûre. Mais toute cette scène a été enregistrée.
Voilà, toute cette scène a été enregistrée.
Alors, vous faites la liste, Agnès Callamard, de 15 Saoudiens, dont un médecin légiste, qui ont participé directement à l'assassinat, qui ont été envoyés à Istanbul pour exécuter Khashoggi. Qu'est-ce qui vous permet d'incriminer le prince Ben Salman ?
Alors, je ne l'incrime pas directement. Cependant, dans le cadre de mon rapport, j'ai revu tous les éléments de preuve à ma disposition. Et j'en ai conclu que ces éléments de preuve étaient suffisamment importants, le faisceau de preuve était suffisamment là pour demander qu'il y ait une enquête de suivi de caractère pénal et qu'elle comprenne les activités, la responsabilité du prince Ben Salman.
Parce qu'il est soupçonné au minimum d'avoir fait disparaître des éléments de preuve au sein du consulat saoudien une fois le meurtre commis ?
Oui, donc ça c'est le minimum. C'est-à-dire qu'une fois après le meurtre, les Saoudiens ont envoyé une autre équipe de 17 personnes qui est restée dans le consulat pendant une dizaine de jours. Ils étaient seuls dans le consulat puisqu'ils n'ont pas permis aux Turcs de rentrer dans le consulat. Durant cette période, ils ont enquêté. Ils ont sans aucun doute récolté des éléments de preuve sur ce qui s'était passé, le meurtre et le démembrement. Ils n'ont pas remis ces éléments de preuve aux Turcs. Et par contre, quand les Turcs ont pu finalement rentrer dans le consulat pour 5 heures seulement, tous les éléments de preuve avaient disparu. Donc ça, ça ne pouvait être fait que dans un cadre officiel.
Alors, Agnès Callamard, vous demandez donc l'ouverture d'une enquête au secrétaire général de l'ONU, lequel, oui, Antonio Guterres, vous a fait répondre qu'il n'avait pas ce pouvoir d'enquête et en substance qu'il fallait un vote du Conseil de sécurité de l'ONU.
Oui, malheureusement, donc c'est quelque chose que je regrette fortement. Jusqu'à présent, le secrétaire général, par l'intermédiaire de ses avocats, de ses juristes, avait dit qu'il fallait une demande officielle de la Turquie. Je suis donc franchement étonnée que maintenant il demande une résolution du Conseil de sécurité. Ce que je regrette, c'est que l'interprétation qui est faite par les juristes, les conseillers de Monsieur Guterres et de lui-même, c'est une interprétation très restrictive de son mandat et de ses prérogatives.
Très politique en réalité, parce que vous ne pouvez pas ignorer à quel point le sujet est sensible et l'Arabie Saoudite un pays extrêmement puissant.
Tout à fait, je suis réaliste et je le dis plusieurs fois dans mon rapport. Je suis quelqu'un qui voudrait voir la justice être rendue. Je suis tout à fait consciente du fait que le processus pour rendre justice, particulièrement de façon pénale, va être un processus très difficile et probablement plutôt long. Donc c'est pour ça que dans le cadre de mon rapport et des recommandations, je mets en avant d'autres mesures qui peuvent être prises par les États ou la société civile ou les médias qui pourraient quand même rendre justice à M. Khashoggi sans nous mettre otages de pourparlers, de démarches politiques, géostratégiques ou financières.
Merci beaucoup Agnès Callamard de nous avoir répondu. Je rappelle que vous êtes rapporteur spécial auprès du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Vous ne parlez pas au nom de l'ONU, mais comme expert indépendante, c'est bien cela ?
Exactement.
Merci de nous avoir répondu.
Merci à vous.
Europe 1.
Et dans un instant, ça va swinguer. Patrice Caratini va nous présenter son Tropical Jazz Trio.
Europe 1. 9h-10h. C'est arrivé cette semaine. Europe 1.
De 9h à 10h, vous êtes avec Patrick Cohen pour C'est arrivé cette semaine sur Europe 1.
Et j'ai le plaisir d'accueillir un grand musicien, l'un des contrebassistes les plus réputés de la scène jazz. Plus de 50 ans de carrière en duo, en trio ou dans les grands orchestres qu'il a fondés comme le Caratini Jazz Ensemble. Mais pour son dernier disque, on le retrouve en trio, un trio tropical. Bonjour Patrice Caratini.
Bonjour.
Le bonheur, se dit-on, en vous écoutant, c'est simple comme un piano, une contrebasse et des percussions. Mais ce qu'on entend là avec Alain Jean-Marie et Roger Raspail, est-ce qu'on peut dire que c'est le fruit de 40 ans de complicité ?
D'une certaine façon, oui. C'est-à-dire que la musique se construit avec le temps aussi et avec la fréquentation les uns des autres. Et donc, c'est sûr qu'on ne réfléchissait pas trop à ce qu'on allait faire, et c'est les circonstances qui nous ont emmenés en studio. Et effectivement, il y a des choses qu'on ne construit pas d'une façon consciente, mais qui se font avec le temps. Oui.
Il y a des Antilles, évidemment, Alain Jean-Marie et Roger Raspail sont guadeloupéens. Il y a de la Caraïbe, j'en parle comme d'un alcool, mais il y a aussi de l'Afrique.
Oui, parce que quand on a commencé à travailler à trois, bon, ça s'est fait un peu par hasard. Et comme on avait cette formule avec les percussions et non pas le trio habituel de piano, basse, batterie, donc on a cherché dans l'histoire du jazz tout ce qui avait trait à l'Afrique et notamment tout ce qu'on appelait l'afro-jazz avec le mouvement qui avait été initié par Gillespie dans les années 40 avec le percussionniste cubain Chano Pozo. Donc y a, et puis il y a plein de musiciens qui ont des origines... De toute façon,
comme Horace Silver, le grand pianiste américain dont le père était originaire du Cap-Vert. Et il y a deux morceaux sur cet album, dont ce magnifique Senior Blues. Senior Blues par Alain-Jean-Marie, Roger Raspail et Patrice Caratini dans ce tropical jazz trio qui vient de paraître sur le label French Paradox. Mais il n'y a pas besoin d'être né sous les tropiques pour composer des rythmes chaloupés, Patrice Caratini.
Bah écoutez, moi je suis né à Neuilly-sur-Seine.
Oui.
Effectivement, ce n'est pas très tropical, mais enfin bon, peut-être qu'on annonce le changement climatique, j'en sais rien.
Ouais, ça, la preuve par Gainsbourg, dont vous adaptez sur le même disque le Couleur Café. Et puis la preuve avec vous, Patrice Caratini, avec, par exemple, cette samba qui est l'une de vos signatures. Samba Cara, la samba de Caratini, où c'est la contrebasse qui est en avant, qui donne la mélodie. Et là, les plus fidèles de vos admirateurs auront reconnu la Carasamba que vous avez créée il y a 40 ans avec le guitariste Marc Fossé. Carasamba, c'est le morceau qui ouvrait la phase 2 de votre premier album en duo avec Marc Fossé, Boîte à musique, qui est toujours un miracle de sensibilité, de délicatesse. Il vous a marqué, ça dit.
C'était certainement oui, le début de toute une aventure musicale assez personnelle. Et le travail avec Marc pendant plusieurs années a été essentiel. Il nous a fait connaître tous les deux, enfin apparaître tous les deux d'une façon un peu... Alors qu'on était surtout accompagnateurs à l'époque, on jouait beaucoup... accompagner les uns les autres, on se retrouvait dans les clubs. Et puis ce duo, on ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs, on s'est mis à jouer en duo dans un club qui s'appelait le Caveau de la Montagne à l'époque.
Ouais.
Et puis ça a attiré immédiatement plein de gens. Nous, on avait la trentaine, on travaillait beaucoup. Et puis ça s'est mis... La mayonnaise prend, on ne sait jamais pourquoi la mayonnaise prend.
Ouais.
On n'est pas responsable de la réussite de la mayonnaise.
Elle a sacrément bien pris cette mayonnaise. Il y a eu ensuite un autre album qui s'appelait Le Chauve et le Gaucher. Je le dis pour les auditeurs, vous étiez le chauve, il était le gaucher.
Exact.
Une version chantée de Carasamba.
J'aime les nuits blanches.
On s'est retrouvé ça. Comment elle s'appelait? Laurence Saltiel.
Laurence Saltiel. Ouais, vous aimez? Ou on a le droit de déposer des mots sur vos compositions?
Ouais, avec plaisir, vous savez, au contraire. Vous savez, la musique est faite pour être jouée par tout le monde. Et c'est vrai, quand on a la possibilité, la chance d'écrire quelques notes et que les gens sont reprises par d'autres, ouais, on est toujours content.
Et vous avez fait chanter Sarah Lazarus et Hildegarde
Vanslav.
Vanslav, voilà, vous le prononcez mieux que moi. Vous avez travaillé aussi, Patrice Caratini, avec Maxime Le Forestier, notamment sur l'album Hymne à 7 ans, où on trouvait cette merveille.
Idées blanches, idées noires comme des balles sortent des manches des mémoires et s'en vont au bal et se regardent sans arrêt rebondir, sans jamais rien se dire qu'elles restent dans leurs gestes bien séparés, dans le mélange, dans l'échange deviendraient nos idées, des idées folles qui s'envolent où l'on ne peut aller, appeler plus haut que nous, qui sait ce qu'elles vont trouver, des couleurs nouvelles.
La chanson du jongleur, Le Forestier, musique de Patrice Caratini. Vous auriez pu faire une carrière de compositeur de chansons.
Oui, mais enfin, vous savez, bien sûr, oui, le compositeur de n'importe quoi, enfin de n'importe quoi, c'est une façon de parler. Mais on n'est pas, comment dirais-je, on écrit de la musique et puis les gens s'en emparent ou s'en emparent pas. Donc après, moi, je ne suis pas trop de la catégorie à dormir sur le paillasson pour placer une chanson. Donc c'est plutôt le hasard des rencontres et les rapports humains qui font que les choses se passent. Quoi.
Et le lien est resté avec Maxime Leforestier.
Bien sûr.
Qui était ici même il y a 15 jours. Patrice Caratini, c'est aussi les ensembles que vous avez créés et dont vous avez été, dont vous êtes le leader. Il y a d'abord eu le 11 têtes. Ça sonnait pas mal. L'extrait de l'album Viens Dimanche de votre 11 têtes. Et puis il y a eu le Caratini Jazz Ensemble avec encore plus de musiciens. C'est quoi, un 15 têtes, un 20 têtes?
Non, on était 12. Hein. Il y en avait un de plus, hein. Rien de plus.
Ah bon,
enfin, j'avais changé le nom parce qu'on était... Sinon, j'aurais bien gardé, mais on était 12. J'avais rajouté un piano, j'avais changé un peu l'instrumentation.
On va écouter Mineur dans la petite suite pour Django. Patrice Caratini, c'est compliqué de faire vivre le jazz vivant aujourd'hui et notamment dans ces formations un peu avec un peu d'ampleur.
Les formations importantes, si vous voulez, c'est un enfer de boulot, mais on tient parce que en fait, on se dit à chaque instant je vais arrêter et après qu'un concert soit bien passé, on recommence. Mais effectivement, il faut faire 15 métiers et il faut chercher. Enfin, ça demande une énergie assez considérable, mais ça vaut le coup.
Ouais, ça vaut le coup. Vous avez le souvenir des grands orchestres. Vous avez travaillé avec Bolling, avec des gens comme ça.
Oui, avec Bolling, avec Martial Solal aussi, ouais. Avec beaucoup, un peu avec Michel Legrand. Et moi, j'ai toujours adoré cette musique-là. Et je suis venu au jazz beaucoup par. J'ai commencé avec un orchestre amateur qui existe toujours, qui s'appelle la Swing Limited Corporation, qui était une bande d'amateurs. Et donc, j'ai cherché à comprendre comment fonctionnaient ces orchestres de l'intérieur et j'ai appris à écrire la musique en jouant dans les orchestres. Parce que la contrebasse est un poste d'observation formidable parce qu'on n'a pas toujours énormément de choses à faire. Alors il faut toujours faire travailler les autres avant la contrebasse et les violons ou les saxophones, les trompettes. Et donc on a le temps d'apprendre à voir ce qu'il faut faire.
Merci beaucoup Patrice Caratini, c'était un plaisir de vous accueillir. Tropical Jazz Trio, ça vient de paraître avec Alain Jean-Marie et Roger Raspail. Merci à vous.
Merci à vous.
Retrouvez C'est arrivé cette semaine, tous les samedis de 9h à 10h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.